Récemment, alors la police politique a été dissoute, mais là on entend des voix de gens qui revendiquent et qui exigent que ceux qui les ont torturés, ceux qui les ont harcelés, soient traduits devant la justice. Et la presse tunisienne publie des noms. Les télés tunisiennes comme Hannibal TV organisent des débats où on voit des gens obligés de quitter le plateau parce qu'il y a des auditeurs qui appellent en disant « mais ce type-là qui parle de démocratie, c'est lui qui a condamné à mort des islamistes dans les années 90, il n'a rien à faire sur votre plateau et donc on prie le monsieur de quitter le plateau ».
En direct, en direct.
En direct, oui.
Bon, vous restez tous là pour l'instant.
Pour le moment, oui. Voilà. Non, mais c'est pas d'épuration, mais une volonté de changement assez forte. Et je terminerai par dire qu'on a beaucoup parlé des réfugiés de Lampedusa, de ces jeunes qui sont censés envahir l'Europe. On n'a pas suffisamment dit que parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui avaient intérêt à quitter la Tunisie.
Indépendamment de ça, cette situation délicate, disons, est-ce que vous sentez des gens qui ont envie de partir de leur pays, de profiter
Oui, pour... oui, on va pas le cacher, bien entendu, parce que les changements, il ne va pas arriver tout de suite. Quand vous êtes chômeur, vous n'avez rien. Ce n'est pas la révolution. Bon, vous êtes content, mais en même temps, il faut vivre. Et à une opportunité, on essaye. Mais ça vaut surtout pour, je dirais, les catégories les plus défavorisées. À l'inverse, on voit renaître beaucoup d'espoir chez toute une catégorie de la population qui était totalement désespérée. On va parler des journalistes, on va parler des jeunes entrepreneurs, de ceux qui avaient des idées pour leur propre pays. Là, pour le coup, ça m'étonnerait qu'ils partent aujourd'hui. Au contraire, ils comprennent qu'il y a une carte à jouer pour eux.
Est-ce que vous avez des questions à poser, déjà sur la Tunisie, des observations, des questions ?
Oui, c'était sur le rôle de syndicat UGTT. On entend d'ici et là que dans les manifestations, les émeutes de Gafsa de 2008, ils n'ont pas joué le rôle qu'il fallait. Donc le mouvement est resté confiné à cette région. Mais cette fois-ci, ils ont joué un rôle catalyseur, un rôle de... ils ont généralisé le mouvement. Ça veut dire que la direction de l'UGTT, cette fois-ci, a été débordée par la gauche. Et ils ont joué un rôle de généralisation du mouvement. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, jusqu'à quel degré?
Alors, Akram?
Oui, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on commençait à l'UGTT était très critiquée parce que, comme toutes les grandes organisations en Tunisie, elle a été obligée de plier un peu par rapport au pouvoir de Ben Ali. Et c'est vrai que par rapport aux émeutes, déjà de 2005, parce qu'il y avait eu des émeutes en 2005, et celle de 2008, l'UGTT a contribué d'une certaine manière à faire en sorte que le mouvement soit contenu dans la région, notamment de Gafsa et du sud du pays. Cette fois-ci, elle a été débordée, effectivement, par la base, par des gens qui ont menacé de créer des syndicats indépendants. Le mouvement de protestation a été tellement important et les violences ont été tellement importantes que l'UGTT ne pouvait pas se faire complice implicite du pouvoir.
Serge Alimi.
Pour une précision sur Gafsa, il y a un sit-in à Tunis pour réclamer de la compagnie des phosphates de Gafsa 17 000 embauches pour les 17 000 familles nécessiteuses de la région, au prétexte que le soulèvement qui a renversé Ben Ali doit beaucoup aux émeutes de Gafsa de janvier 2008. Et là, on voit à quel point le mouvement démocratique qui a éclaté à partir de décembre dernier est aussi la conséquence de cette ébullition sociale.
On va parler de l'Égypte dans un instant, mais on va d'abord demander à nos amis de l'Orchestre national de Barbès d'illustrer ce que nous venons de dire.